Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Nous reviendrons sur le sommet One Health qui s'est tenu hier à Lyon en présence d'Emmanuel Macron. En marge du sommet, des associations ont manifesté hier devant la mairie de Lyon. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Une soixantaine d'agents pénitentiaires ont décidé de bloquer hier la maison d'arrêt de Corba. Coup d'arrêt pour les grands magasins Printemps, l'enseigne de prêt-à-porter, annonce la suppression de 229 postes sur près de 3000. L'association naturaliste Arthropologia vous promet d'y voir plus clair en ce qui concerne la vraie utilité de votre jardin, notamment par rapport aux besoins des pollinisateurs grâce à l'application Pollinis Action. Reportage dans cette édition. Et puis nous parlerons du centre commercial de la Part-Dieu qui accueille l'opération Mission Sauvetage des Jouets dans quelques jours.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Macron s'est posé en défenseur de la vérité scientifique, de la coopération internationale et du multilatéralisme dans son discours au sommet One Health hier à Lyon, soulignant que la coopération internationale est absolument nécessaire dans le domaine de la santé. Le président français a vanté la méthode bâtie depuis 2017 avec les fameux One Planet Summit.
La méthode, c'est celle que nous avons bâtie depuis décembre 2017, celle des One Planet Summit. Ce sommet est le 9e dans le genre. Ces sommets, nous les avons bâtis pour réagir à la fracturation de l'ordre international. Rappelez-vous, on a bâti le premier One Planet Summit quand les États-Unis d'Amérique, déjà, nous disaient « Nous déchirons les accords de Paris, fini les engagements sur le climat ». Alors on a dit « On va essayer de bâtir des coalitions d'acteurs pour sauver les accords de Paris ». Mais au fond, on va dire « Les scientifiques, les ONG, les gouvernements, les villes, les entreprises ». Les grands financiers, l'ensemble des acteurs, quel que soit leur secteur, qui sont prêts à se mobiliser et à bâtir une coalition d'acteurs, on les met autour de la table pour agir. On l'a fait ensuite sur l'océan, on l'a fait sur la biodiversité, nous l'avons fait sur les forêts, sur les pôles, et maintenant nous le faisons sur la santé. C'est cette méthode, bâtir des coalitions d'acteurs dans un ordre international bousculé, montrer qu'il y a un multilatéralisme efficace qui a aussi présidé au fameux pacte pour la prospérité, les peuples et la planète, le 4P, bâti en juillet 2023. Et les résultats sont là. Plus de 50 initiatives et coalitions concrètes qui engagent 140 pays, 3800 chercheurs conduisant des projets de recherche, plus de 2 milliards de dollars mobilisés pour la transition et des investissements massifs pour protéger des écosystèmes, les forêts, les sols, etc., etc. L'approche One Health, fondée sur la science interdisciplinaire, comme je viens de le dire, justifiait pleinement de bâtir ce sommet avec cette même méthode. Pour la France, le One Health Summit s'inscrit dans une longue tradition d'engagement. Notre pays a cofondé le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et UNITAID. Nous sommes un bailleur historique de Gavi, l'Alliance du vaccin. Nous sommes leader mondial de la recherche, comme l'illustre le prix Nobel de médecine obtenu par Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. Le pays qui héberge l'OMSA, pays champion de la santé mondiale, et en cela, Lyon en est sa capitale, accueillant en effet l'Académie de l'OMS, cher docteur Tedros, que nous avons inauguré en décembre 2024, mais aussi le Centre international de recherche contre le cancer, et un One Health Institute. One Health n'est pas un slogan, c'est un concept opérationnel et c'est pourquoi ce sommet est si important.
Alors que les États-Unis ont retiré leur soutien à l'OMS, le président de la République a souligné la légitimité de l'organisation internationale dans son discours. Il s'est entretenu quelques minutes en tête-à-tête avec son directeur, le docteur Tedros. Parmi les annonces à Lyon, la création d'un pacte international pour préserver l'efficacité des antibiotiques, comprenant des engagements à réduire leur usage inapproprié, à garantir un accès équitable et durable aux antibiotiques essentiels et à bannir leur usage comme facteur de croissance dans les élevages. Les dirigeants et les scientifiques ont également appelé le secteur privé à s'engager pour réduire l'usage des plastiques. Les participants au One Health Summit se sont engagés aussi à partager leurs données de santé pour qu'elles soient utilisées par les chercheurs, mais aussi dans des décisions politiques. Enfin, un réseau One Brain Health sera créé pour comprendre et prévenir l'impact des transitions environnementales sur la santé cérébrale, dont la santé mentale. En marge du sommet mondial sur la santé, des associations ont manifesté hier à la mi-journée devant la mairie de Lyon, pointant du doigt la baisse de l'engagement financier de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le financement doit passer de 1,6 milliard sur 2022-2026 à 660 millions d'euros sur 2026-2028. Ce sont des actions de prévention, d'accès au traitement, des accès aux soins de plus d'un million de personnes par année qui vont être mises en péril. Ces maladies tuent chaque année 2,5 millions de personnes, ont rappelé les manifestants. Les associations demandent à Emmanuel Macron de revoir l'engagement financier de la France à la hausse. Une soixantaine d'agents pénitentiaires ont décidé de bloquer hier la maison d'arrêt de Corba pour dénoncer le nombre trop élevé de détenus dans l'établissement et la dégradation de leurs conditions de travail. 1300 détenus pour 650 places, c'est-à-dire un taux d'occupation de 200%. Les conditions deviennent indignes et insupportables pour le personnel, dénoncent les syndicats. Les syndicats qui réclament notamment au niveau local un binômage en détention pour que les surveillants n'interviennent plus seuls en coursive. 80 détenus avaient manifesté fin mars contre leurs conditions d'incarcération. Après l'incendie dans l'institution des Chartreux à la Croix-Rousse, les salariés du lycée sont de retour aujourd'hui dans l'aile qui n'a pas été endommagée. 150 élèves avaient été évacués dans la nuit du 1er avril après le départ de feu, vraisemblablement d'origine accidentelle. Coup d'arrêt pour les grands magasins printemps. L'enseigne de prêt-à-porter fondée en 1865 annonce la suppression de 229 postes sur près de 3000, avec aussi la fermeture de la boutique de Rennes. Un ralentissement durable des ventes des biens de consommation, une baisse du pouvoir d'achat, la hausse de la concurrence de la mode ultra-éphémère et de la seconde main sont autant de raisons évoquées pour justifier cette restructuration. La direction évoque une réorganisation des effectifs pour le grand magasin de la Presqu'île, rue de l'Arrêt.
Lyon demain ? Jardin perché.
Vous avez un beau jardin, mais joue-t-il pleinement son rôle auprès des insectes? Et plus particulièrement, votre jardin répond-il aux besoins des fameux pollinisateurs? L'association naturaliste Arthropologia vous promet d'y voir plus clair grâce à l'application Pollinis Action. Un reportage au jardin de Noam Mouret.
Le printemps fait son retour avec son cortège vivant. Et nos jardins sont les premiers concernés. Arthropologia est une association naturaliste de l'Ouest lyonnais qui fêtera ses 25 ans en juin. Ils œuvrent au quotidien pour protéger la faune et la flore, notamment au travers de divers aménagements simples à réaliser. Comme le diagnostic pollinisation, nous sommes avec Hugues Mouret, directeur scientifique de l'association. Pouvez-vous nous expliquer ce diagnostic pollinisation ?
Oui, alors le diagnostic pollinisation, c'est un guide qu'on a mis en place, une grille de lecture de la nature simplifiée, parce que c'est souvent difficile aux gens et peu accessible de savoir ce qu'il en est en termes d'oiseaux, d'insectes, de fleurs, etc. Donc on a simplifié les moyens d'observation d'un jardin pour évaluer la présence ou l'absence de points d'eau, de murets, de tas de bois morts, d'espaces de nidification ou de nourrissage, pour à ce moment-là savoir quelles sont les capacités d'accueil des pollinisateurs dans un jardin et plus globalement de la diversité.
Et alors en quoi c'est important les pollinisateurs ?
Alors pourquoi on a pris les pollinisateurs et pas l'ensemble du vivant ? Parce que c'est encore plus complexe de regarder l'ensemble du vivant et les pollinisateurs en réalité sont tellement diversifiés en France, rien qu'en France métropolitaine on compte plus de 20 000 insectes floricoles, c'est-à-dire qui vont dans les fleurs et donc qui participent plus ou moins efficacement au travail de pollinisation. Donc cette grande diversité d'acteurs, d'insectes adultes qui agissent dans les fleurs, elle est complétée par une diversité de larves qui ont des besoins extrêmement différents. Et donc on a des larves qui vont avoir besoin de bois mort, qui vont avoir besoin de bulbes, qui vont avoir besoin de terre, qui vont avoir besoin d'eau, qui vont avoir besoin parfois d'excréments. Donc vous n'allez pas placer forcément tout ça dans un jardin, mais néanmoins c'est des besoins qui sont nécessaires à remplir pour les larves, afin que les adultes à un moment puissent émerger et remplir leur fonction de pollinisation en butinant dans les fleurs.
Comment a-t-on accès à ce diagnostic ?
Alors là c'est simple, c'est un guide papier qu'on peut se procurer à l'association ou qu'on peut imprimer parce qu'il est téléchargeable en ligne, ou bien il existe aussi un site internet sur lequel il y a une petite web-série avec Merlin et Perceval de Kaamelott, là les deux acteurs qui sont venus nous faire 6 petits épisodes, et également le guide qui peut être téléchargé, et vous avez accès à une web-appli, c'est-à-dire qu'on peut aussi réaliser l'évaluation à partir de son téléphone ou à partir d'une tablette, ce qui permet de stocker les informations et de voir 1 an, 2 ans, 3 ans après comment les choses ont progressé.
Et quel est le public ciblé par Politis Action ?
Alors l'idée, c'est vraiment d'intervenir le plus largement possible. Donc le premier public cible, c'est les jardiniers, jardins privés. Parce que ça représente 1 million d'hectares en France, presque 4 fois la surface des réserves naturelles françaises. Et qu'en fait, en rendant un quart de son jardin, on multiplie par deux les surfaces de réserves naturelles. Mais il y a aussi une version qui a été réalisée pour les professionnels des espaces verts, qui eux interviennent dans les habitats collectifs, dans les habitats parfois dans les habitats particuliers, et qui peuvent être force de proposition pour laisser une petite place qui va être gérer différemment, dans laquelle on va avoir un peu plus de diversité, un peu plus de zones de refuge. Voilà, ça c'est les deux premiers. Et évidemment, pour faire bouger les choses, on a besoin des jeunes et on a besoin du renouveau de ce que peuvent apporter le regard et la volonté des jeunes de vivre dans une planète qui est remplie de vie. C'est pourquoi on a aussi produit deux diagnostics. Un à l'attention des équipes éducatives qui peuvent le prendre en main dans les processus de végétalisation et de renaturation des cours d'école avec les enfants pour les faire participer à cette remise à jour du vivant qui nous entoure. Et notre équipe éducative est en train d'en développer un nouveau auprès des enfants et des collèges, pour les collégiens et pour les enfants en école primaire, afin qu'eux aussi puissent pousser les parents, pousser les adultes, pousser leurs professeurs à laisser un peu plus de place aux vivants qui nous entourent, parce qu'on en a tous besoin.
Vous avez identifié 4 besoins essentiels pour les pollinisateurs. Il leur faut évidemment de la nourriture abondante et variée, mais aussi de quoi nicher et s'abriter. Également ne pas être menacé et enfin, moins évident, de se faire connaître, qu'on parle d'eux. Alors comment peut-on agir sur ces 4 besoins ?
Alors en réalité c'est assez simple, c'est même souvent des non-actions parce qu'on a tendance à en faire un petit peu trop, à trop tondre, à trop tailler et en fait à jamais laisser les choses s'exprimer. À tailler chaque année une haie, on verra pas de fleurs et donc on verra pas de fruits, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nourriture pour les insectes, il n'y aura pas de nourriture pour les oiseaux, il n'y aura pas d'espace pour que les oiseaux construisent leur nid. Et c'est quand même dommage, à tout tondre, on n'aura pas de fleurs, donc il n'y aura pas d'abeilles, il n'y aura pas de papillons, donc il y aura moins de fruits au potager. C'est pourquoi en fait on peut facilement agir en laissant des petites zones, en semant ou en laissant plutôt s'exprimer la flore spontanée qui est les graines qui sont en dormance dans le sol. On peut aussi tout à fait planter des fleurs qu'on aime bien et qui vont jouer un rôle important pour les insectes. Alors c'est le cas par exemple de nombre d'aromatiques, la sauge, le thym, le romarin, la ciboulette, voilà, nombre de plantes que vous avez couramment au jardin. C'est valable évidemment pour toutes les plantes potagères qui ont un besoin des insectes pour être pollinisées, donc les courgettes, les courges, les tomates, etc. Donc n'hésitez pas à planter largement, à laisser des zones et on a à ce moment-là une nourriture abondante pour les adultes, et c'est là que c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour pouvoir aussi sédentariser et permettre aux larves de grandir, eh bien, il faut des zones de refuge, il faut des zones de nourrissage, du bois mort, il faut des tailles de feuilles mortes, il faut des bulles, il faut de l'herbe qu'on laisse retomber l'hiver. Bref, tout un tas d'habitats et de micro-habitats qui naturellement parsèment les environnements naturels et qu'on a eu tendance à nettoyer dans les jardins. Donc ça c'est pour la nourriture et les espaces de nidification et de refuge. Vous voyez qu'en mettant des branches mortes, on va avoir le double effet des larves de cétoine, ces beaux scarabées qui se développent dans qui se nourrissent dans les fleurs et qui vont se développer dans le bois mort. Et puis le bois mort va lui servir de cache pour l'hiver, un certain nombre de bestioles qui vont aller se cacher l'hiver ou l'été pour éviter les canicules, pour éviter le froid, etc. D'autant plus que le bois, en se décomposant, va nourrir la terre et donc va diffuser de la nourriture lentement pour les arbustes, pour les arbres. Bref, c'est nettoyer la nature, ça n'a aucun sens et ça n'a aucun avantage ni pour nous, ni pour les animaux, ni pour la flore qui nous entoure. Ensuite se pose le problème des menaces et des menaces invisibles, ou en tout cas qu'on ne perçoit pas, comme par exemple les pesticides qui sont interdits dans les jardins privés, évidemment, depuis la loi Labbé, on n'a plus le droit d'utiliser des produits toxiques dans les jardins privés, en tout cas des produits de synthèse, et dans les espaces publics également. Mais on peut en faire rentrer insidieusement, c'est-à-dire quand on va acheter des plants qui ont été produits en utilisant des pesticides, et bien en réalité, même si on n'en fait rentrer qu'un tout petit peu dans son jardin, on participe à une économie qui utilise des produits qui vont intoxiquer l'environnement, le sol, l'eau, l'air, etc. pour avoir des fleurs dans son jardin qu'on va mettre à disposition des pollinisateurs. Donc il y a quand même un paradoxe, donc c'est pour moi nécessaire d'obtenir des semences biologiques ou bien des plants qui ont été produits sans pesticides pour pas participer à ce schéma-là. Et puis le dernier point de vigilance sur lequel il faut se porter, c'est par exemple les lumières. On néglige souvent ça parce qu'on dort, mais en réalité, la majorité des animaux vivent la nuit, et c'est encore plus valable pour les insectes. Hein. Les deux tiers des insectes vivent la nuit, et si un lampadaire reste allumé toute la nuit, il y a un certain nombre d'insectes qui vont tourner autour jusqu'à mourir, sans se nourrir, sans se reproduire, jusqu'à épuisement. Donc, alors que personne n'y est, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir dans son jardin, et peut-être dans son lotissement, peut-être auprès de sa commune. Et tout une fois que vous avez mis en place, c'est le quatrième point, une fois que vous avez mis en place ces solutions pour leur laisser un peu de place pour se nourrir, pour se reproduire, pour passer l'hiver, pour éviter qu'ils s'intoxiquent, eh bien, il reste un élément essentiel, c'est d'en parler. C'est de parler d'eux et d'expliquer peut-être à son voisin, à son ami, à sa famille, à ses ennemis, à ses collègues, comment est-ce qu'on peut très facilement faire des gestes ou ne plus faire, leur laisser un peu de place pour que tous ensemble, on ait une activité qui va dynamiser ces populations, les sédentariser et assurer ces rôles de contrôle, de pollinisation, de recyclage des matières organiques qui sont des rôles essentiels que remplissent les insectes et les petites bêtes autour de nous.
Merci Hugues Mouret, le message est clair. Les pollinisateurs sont à protéger et accueillir dans nos jardins. Pollinisation est un outil pour se faire accompagner et bénéficier d'un suivi dans cette démarche.
Merci Noam. Le centre commercial de la Part-Dieu accueille l'opération Mission Sauvetage des Jouets. Ce sera les vendredis 17 et samedi 18 avril. Objectif, permettre aux enfants et à leurs familles de découvrir à travers trois ateliers ludiques comment réparer, réutiliser et mieux trier les jouets inutilisés. La mission Répartouf invite à manipuler et réparer différents objets comme un établi de bricolage, une moto draisienne ou un toboggan grâce à des pièces détachées mises à disposition. La mission Récup Jouets, organisée avec l'association locale Enjouet, propose un atelier d'upcycling pour apprendre à donner une seconde vie aux jouets. Enfin, la mission Tri est un jeu interactif pour apprendre les bons gestes et savoir dans quel contenant déposer chaque objet usagé. Près de 3 Français sur 10 jettent encore leurs jouets usagés dans leur poubelle, ne permettant ni le réemploi ni le recyclage, alors que les deux tiers sont encore en bon état, soulignent les services de l'éco-organisme Eco-Maison à l'origine de cette opération de sensibilisation qui aura donc lieu les 17 et 18 avril au centre commercial de la Part-Dieu. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la prochaine édition.